Bien, bonjour, messieurs de là-bas. C'est juste pour une erreur grammaticale. Notre président s'est trompé. C'est pas pauvre con qu'il faut dire. C'est con de pauvre, pour être plus exact. Con de pauvre. Merci. Bonsoir.
Bonjour, Daniel. On se scandalise des mots qu'est prononcé le président Sarkozy. Mais en substance, c'est pas scandaleux. C'est en substance ce que nous avait dit à tous les citoyens qui avons participé au référendum, que nous ayons voté oui ou non à ces traités. La forme de langage grossier a la vertu d'être sincère. Au moins, on entend bien ce qu'il veut nous dire. Mais cette grossièreté violente est la forme que nous souhaitons entendre un président de la France dans son langage. Mais cette violence n'est rien comparée à ce que sera la violence financière qui va exercer le traité de Lisbonne à partir de sa non-application. Lorsque nous serons privatisés par des pans entiers de l'économie française et que nous, les citoyens, qui voudrons faire autrement, on va être rejetés de la façon la plus violente. Il va falloir commencer à écrire dès à présent à tous les responsables de gauche qui ont voté avec Sarkozy pour ce traité de Lisbonne. Quelle sera sa responsabilité pour restaurer la liberté, l'égalité et la fraternité en France? Le combat est bien plus long, bien plus large, bien plus grave qu'un écart langagière. Il faut commencer dès à présent. C'est Alexandro, ça parle de Tarbes.
Salut Daniel, salut à tous. Le repère de Lons-le-Saunier se tiendra ce jeudi 28 février à 20h30 au bar Le Tiffany. Cette fois-ci, nous évoquerons les municipales. Les hypothétiques futurs petits élus locaux fonctionnent-ils comme les grands nationaux? Une candidature plutôt qu'un projet? Des alliances plus que douteuses? Où mène l'abstention? Que deviennent les votes blancs? Les questions ne manquent pas. Pourtant, on s'y connaît en blanc dans le Jura. Un peu de comté, quelques noix, on a vite fait notre choix. Bref, venez nous éclairer et vous éclairer. Comme d'habitude, venez nombreux, ce n'en sera que plus joyeux. Ce jeudi 28 février à 20h30 au bar Le Tiffany à Lons-le-Saunier. A plus.
Bonjour, juste une petite info qui ne passe pas sur France Inter. Les éclusiers sont en grève depuis plus d'une semaine et ils réclament des choses extravagantes comme une pause le dimanche midi pour pouvoir manger et puis ils luttent contre la baisse des effectifs. Mais comme ça ne gêne pas notre président et qu'il n'y a aucune raison qu'il aille leur tripoter les mains, ça ne passe pas à la télé et ça ne passe surtout pas sur France Inter. C'est bizarre quand même. Alors ça gêne évidemment la batellerie et ça favorise le transport routier. C'est peut-être pour ça qu'on ne fait aucune publicité autour de ce problème qui est en fait... Et il faut tout dire, un signe de la privatisation des voies navigables de France qui était jusqu'ici un service public, même s'il était délégué à un organisme commercial. Bonne journée à tous. Au revoir. C'était Jean-Claude.
Oui, bonjour. Nous sommes lundi 25 février. Je viens d'écouter votre émission qui est fantastique et je voudrais vous remercier. C'est tout à fait exact. Dans les années 90, j'ai fait un DEA de droit international du développement. Les problèmes existaient déjà dans les rapports Nord-Sud. Et c'est le GATT qui est maintenant devenu l'OMC qui organisait ça, en fait. Sauf qu'il y avait encore des grands intellectuels en France et en Europe qui essayaient de créer un nouvel ordre économique mondial qui irait dans le bon sens. Et là, ça fonctionne effectivement dans tous les rapports de tous les États du monde. Et on est en train aussi de dépouiller l'Europe, qui est le premier, qui est le grenier de, enfin, qui est son propre grenier, hein, qui était à un moment le grenier du monde, puisqu'on essaie de détruire la PAC, qui avait pour but de préserver l'équilibre alimentaire en fait de l'Europe. Et la guerre contre la faim qui existait pendant, pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, la famine, on est en train de dépouiller ça aussi, au niveau agricole de toute façon. Hein. Bon, effectivement, au niveau industriel aussi. Le traité de Lisbonne, pour lequel, contre lequel on a dit non en 2005, puisque c'est le même, consolide ça et nous enlève encore un peu plus de pouvoir à nous, les citoyens de chacun des pays d'Europe. Voilà. Donc, j'espère que la pub qu'on va enlever dans les radios d'État et dans les télés d'État, donc France Inter, etc., ne va pas faire que vous aussi, on va vous couper la parole faute de moyens. Bon courage, merci, à bientôt et continuez. Au revoir.
Oui, eh bien, c'est M. Ziegler là, qui est venu nous farcir la tête de toutes ces idées, mais il n'a qu'à venir gouverner la France. Voilà, il fera peut-être mieux. Merci.
Bonjour à toute l'équipe. C'est merveilleux, ces émissions avec Jean Ziegler, on apprend toujours quelque chose. Une information qui peut intéresser tous les auditeurs. Il y a un très bon documentaire qui va passer bientôt sur Arte, le mardi 11 mars à 21h. Ça s'appelle « Le monde selon Monsanto ». Une très très bonne enquête de Marie-Monique Robin, qui a déjà enquêté pas mal sur l'agriculture. Donc « Le monde selon Monsanto » sur Arte, le mardi 11 mars à 21h. Un film à ne pas rater. Bon courage à toute l'équipe. Salut.
Salut Daniel et l'équipe. Chirac va au salon de l'agriculture ce matin. Ils vont lui faire un triomphe et vont l'ovationner. Sarkozy, il est très fort. Il va réussir à faire regretter Chirac aux Français. A plus.
Ceci est un appel pour un sursaut citoyen. Hier, M. Nicolas Sarkozy, président de la République française, a annoncé par le biais de son porte-parole, David Martinon, qu'il avait demandé au premier président de la Cour de cassation de lui faire toutes les propositions pour permettre une application immédiate de la loi sur la rétention de sûreté. Cette loi a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel. Or, l'article 62 de la Constitution de notre République dispose, dans son alinéa 2, que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Et, dans son article 5, alinéa 1er, que le président de la République veille au respect de la Constitution. Monsieur Sarkozy viole ainsi deux articles de notre Constitution. Par conséquent, nous, citoyens républicains, demandons au premier président de la Cour de cassation de ne pas donner suite à la demande du président de la République et d'appliquer strictement la Constitution de notre État. Nous exigeons que les institutions que nous avons librement choisies et dont nous fêtons les 50 ans cette année soient respectées et appliquées dans leur intégralité. Nous rappelons à M. Sarkozy qu'il a été élu président d'une République et qu'il se doit donc de se conformer strictement au texte fondateur de celle-ci. Nous rappelons au président de la République que la non-rétroactivité d'une loi est l'une des valeurs fondamentales de notre démocratie, dit le pays des droits de l'homme. Mais si celui-ci souhaite revenir sur ce principe fondateur, il ne peut que passer par la voie parlementaire en déposant un projet de réforme constitutionnelle devant le Parlement et de le faire voter par celui-ci réuni en Congrès. Si cette doléance n'est pas suivie d'effet, nous, citoyens sincèrement démocrates, déclarons que M. Nicolas Sarkozy, président de la République, aura alors perdu toute légitimité, ne pourra donc plus assurer la fonction suprême et devra en tirer toutes les conséquences. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce manifeste sur decroissance.over-blog.org ou sur le site non officiel de là-bas si j'y suis, la-bas.org. Ciao et merci à tous.
Merci, merci, merci pour ces messages et celui-là en particulier, chers amis modestes et géniaux, chers AMG, message que j'écoute depuis l'Arizona où nous nous trouvons toujours en reportage sur la frontière entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique. Et hier, on a fait une rencontre formidable avec Antoine et Guive de l'autre côté, du côté mexicain, à Naco, un petit patelin qui s'appelle Naco, qui est collé contre la frontière et qui est une de ces petites villes de passage des clandestins, des migrants, de ce qu'on appelle au Mexique les pollos, c'est-à-dire les poulets. Je vous ai reparlé de ces poulets. Mais on a rencontré là un journaliste, un grand journaliste, qui s'appelle Rodolfo Santos. Et Rodolfo Santos, c'est le patron de El Mirador. Et il ne travaille pas tout seul dans ce journal, il travaille aussi avec sa femme. Et puis il travaille aussi avec les enfants. Et ses grands-enfants donnent un petit coup de main de temps en temps, sa fille et son fils. Et voilà toute l'équipe. C'est du journalisme familial. Tout ça, ça se fait dans une pièce. Ils ont trois ordinateurs portables. Et au milieu d'un tout un bazar, il y a la pile de journaux qui vient d'arriver. Ils en vendent 1500, 1500 tous les 15 jours. Et il les distribue dans la région, alors aussi bien du côté des États-Unis que du côté mexicain. Et pour prévenir de l'arrivée de El Mirador, ils font la tournée avec une voiture et un haut-parleur sur la voiture. Il y a d'abord une petite musique, un petit corrido, en hommage à El Mirador. Et puis, il y a les titres, les gros titres, alors ça varie évidemment selon l'actualité de ce petit coin du monde. Ça marche pas trop mal, ils arrivent à survivre, ce qui n'est pas le cas du tout de tout le monde dans cette région, et notamment à Naco, mais on a longuement parlé avec Rodolfo, sa femme et ses deux enfants, et on lui a dit, mais pourquoi tu travailles ? Il dit, mais je travaille pour le peuple, tout simplement. Et là, on était à l'origine, à la source même du journalisme, des médias et de ces grands sujets. Et bien, Rodolfo, il travaille pour le peuple, c'est-à-dire qu'il informe vraiment les gens sur ce qui se passe, aussi bien dans les choses graves, les faits divers. Et là, ça va être la période des élections municipales et régionales au Mexique. Et donc, Rodolfo est assez content, parce que ça, c'est un surcroît de boulot pour lui et sa petite équipe familiale. Mais, ça fait monter les ventes. Et il espère, si les ventes augmentent, qu'ils pourront tous les quatre partir en vacances. Pas très longtemps, une petite semaine, quelque part au bord de la mer. Voilà, petite nouvelle du front, ici, loin des insultes et des pauvres cons, et je ne sais quoi. Bon, alors, aujourd'hui, on avait promis que de temps à autre, on reviendrait sur mai 68. Ça va être le 40e anniversaire, faut-il le rappeler. Et là, on va retrouver Christine Ross, c'est une chercheuse, une intellectuelle new-yorkaise qui a publié il y a quelque temps déjà une recherche sur mai 68 et ses vies ultérieures. Mai 68 et ses vies ultérieures. On pourrait dire, j'hésitais parce que une vue ultérieure, une certaine originalité dans le regard de Christine Ross, en tous les cas qui montre que, eh bien, mai 68 n'est pas mort, au moins dans les débats et les regards qu'on peut y porter. Rien d'étonnant à ce qu'une Américaine s'intéresse à mai 68. Faut rappeler, on le rappellera ce printemps, que ce fut un événement mondial. Qu'on est au Mexique, par exemple, Mexico a connu un bain de sang en 68. Voilà notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés, chers AMG, dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Camarades, la nouvelle provocation de Monsieur Nicolas Le Petit au Salon de l'Agriculture doit être pour nous l'occasion de rebondir. L'effondrement du PC n'est pas une fatalité. Camarades, nous sommes des millions de pauvres cons. Aussi, pour les élections à venir, votez PC, votez pauvres cons. C'était Rémi dans le Rhône, salut.
Oui, je veux téléphoner par rapport au message de José Bové. Donc bravo à l'USTKE, l'Union des Travailleurs Cagnac. Merci aussi à José Bové pour les infos. Mais il y a Il y a aussi le Chien Bleu, qui est un mensuel satirique de Nouvelle-Calédonie, qui aurait certainement pas manqué de nous dire tout ça. D'ailleurs, on peut lire le Chien Bleu sur le net. Hein. Et puis, il a plein d'autres choses à nous dire d'intéressantes sur l'USTKE, qui n'est pas forcément une organisation très libre, comme on le dit. Alors, n'hésitez pas à consulter le net, le Chien Bleu. Hein. Par contre, pour Jodard, je l'ai pas entendu protester contre les propos racistes hein, tenus par les manifestations et dans les manifestations par les manifestants de l'USTKE, dans certains défilés, notamment celui du 1er mai. Bon, d'accord, hein, c'était dans des lieux où les gros colons blancs viennent se pavaner, mais bon, quand même, il y a des propos à ne pas tenir ou à renier, quoi. Et puis une dernière chose, pendant que José Bové est là-bas, ça serait bien, bon, en plus c'est l'été, il fait beau, hein, qu'il aille faire un tour au 9 bis rue de la Somme, à côté des impôts, voir si le nombre de SDF, parce qu'il y a une association là-bas qui s'occupe de SDF, qui s'appelle le CAC, le centre d'action, c'est pas un centre d'action communale, c'est un centre d'accueil, voir si le nombre de SDF augmente, parce que je crois qu'il augmente en ce moment, et depuis un petit moment, depuis un an et demi, et il y a pas mal d'actions qui sont menées d'ailleurs par les gens de cette association, l'association Accueil, notamment de genre de Jardin de la Solidarité, Jardin de Cocagne. Et pendant qu'il est là-bas, essayez de lui faire passer le message, parce que c'est effectivement un nombre de SDF en augmentation, et c'est pas parce qu'on est sous le soleil qu'on souffre pas plus, quoi. Allez, au revoir. Et puis moi, c'est Eric hein, de Gironde. Salut.
Bon, Daniel, il faut que tu continues. Hein. Tout ce que tu fais, c'est bien. Tu continues. Ouais, tu continues. Voilà, c'est bien, Daniel.
Barricades descendant le boulevard Saint-Michel et ont lancé pour la première fois de la soirée les grenades lacrymogènes en direction des barricades de la rue Gay-Lussac. Actuellement, ils ont enfoncé une barricade là et tous les étudiants ont été obligés de se protéger le visage avec leur mouchoir.
Dites-moi, Fernand Choisel, vous-même, j'ai l'impression que vous êtes dans la zone qui est touchée par les gaz.
Mais oui, parce que vous savez, je suis juste au pied de la barricade, là, et il y a une fumée extraordinaire, car les étudiants ont été dispersés par les grenades lacrymogènes. Les CRS ont essayé d'enfoncer cette barricade, donc ils ont chargé pour la première fois de la soirée. J'ai du mal à m'approcher maintenant. Alors que les étudiants reviennent vers leur barricade maintenant et que les CRS descendent le boulevard Saint-Michel.
Bien, Fernand Choisel.
Une atmosphère absolument irrespirable ici dans cette rue Gay-Lussac. Et j'ai du mal à voir ce qui se passe.
Bon, Fernand Choisel.
J'ai vraiment les yeux qui me piquent.
Fernand Choisel, tâchez de trouver.
Je vous entends très mal, vous savez.
Merci Fernand Choisel.
Juste les explosions. Les explosions des grenades lacrymogènes maintenant qui passent par-dessus les barricades de la rue Gay-Lussac. Mais à noter que pour l'instant, les forces de police n'ont pas encore chargé et qu'elles lancent tout simplement ces grenades par-dessus les barrages, ce qui, je le répète, est extrêmement pénible. A tout à l'heure.
A tout à l'heure, Fernand Choisel.
Salut, c'est là-bas si j'y suis, Daniel Mermet, avec Christine Ross, mai 68 et ses vies ultérieures.
Flight number 2, arriving from New York.
La violence est la seule chose qui reste, quel que soit le régime. Aux étudiants qui sont jeunes, qui pensent qu'ils ne sont pas encore entrés dans le système que leur ont fait leurs pères et qui ne veulent pas y entrer. Autrement dit, ils ne veulent pas de concessions. Ils ne veulent pas qu'on aménage les choses, qu'on leur donne satisfaction sur une petite revendication pour en fait les coincer et leur faire prendre la filière et leur faire être, comme je vous le disais, dans 30 ans, ce vieux bonhomme usé qui est leur père. Ils ne veulent pas du tout y entrer et par conséquent, ce refus est évidemment un refus de violence. Donc, si vous voulez, on peut considérer que le seul rapport qu'il puisse avoir avec cette université, c'est de la casser. Et pour la casser, il n'y a qu'une solution, c'est descendre en marche.
Ah 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 Et ils sont descendus dans la rue. Ils sont descendus dans la rue. Mai 68, c'était la voix de Jean-Paul Sartre. Le 13 mai 1968, la violence vue par Jean-Paul Sartre, évidemment, des commentaires et qui à l'époque ont eu un écho considérable. Aujourd'hui, on reçoit Christine Ross, donc cette historienne américaine, qui donne de mai 68 une version tout à fait différente, qui apporte sur ces événements une lumière tout à fait singulière. Est-ce qu'elle a refait 68? En tout cas, il faut faire attention aux historiens américains. Souvenez-vous du cas de l'historien Paxton. On va l'évoquer, bien évidemment. On va pas manquer de ne pas l'évoquer. C'est que effectivement l'histoire est reconstruite, déconstruite, mais par qui et au profit de quoi? Selon les nécessités du présent, avait répondu quelqu'un, mais quelles sont les nécessités et quels sont les nécessiteux? Là-bas, mai 68.
Nous disons que l'État est partie prenante de l'antagonisme de classe, que l'État représente une classe. La bourgeoisie cherche à préserver une partie des étudiants, futurs cadres de la société. Le pouvoir possède la radio et la télévision et un parlement à sa main. Nous allons nous expliquer directement dans la rue, nous allons pratiquer une politique de démocratie directe.
25 ans après, à part ces anniversaires médiatiques, que reste-t-il de mai 68?
Aujourd'hui, on ne voit plus de séquelles de 68, puisque effectivement, 68 s'est dissous dans la société, donc 68 a gagné au niveau de la société. Politiquement, 68 a complètement perdu.
Les policiers continuent de ratisser le boulevard Saint-Michel. Ils s'engouffrent dans la rue Cujas. Ils ratissent vraiment un coup de matraque.
Attention, attention François, il y a un pavé.
Christine, comment on dit? Christine Ross?
Ross? Oui.
Ross?
Oui.
En anglais, en français, comme on veut. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Vous enseignez la littérature à l'Université de New York en ce moment.
Oui.
Et vous vous intéressez surtout beaucoup à nous, beaucoup
littérature française.
À la littérature française. À l'histoire. À l'histoire. Il faut faire très très attention aux historiens américains quand ils commencent à se pencher sur l'histoire française, parce que ça peut faire des dégâts, et des dégâts très longs. Évidemment, je pense à Paxton avec son histoire de Vichy. Je ne sais pas si vous êtes à mai 68, ce que Paxton est à Vichy, mais en tous les cas, là, vous donnez votre regard, votre analyse et puis votre travail sur mai 68. Qu'est-ce que mai 68? Eh ben, ça a été une révolution des mœurs, ça a été une révolution culturelle, libertaire, sexuelle, et qui a engendré l'individualisme, qui a été le lit du libéralisme, libertaire, libéral. Mais sinon, il s'est à peu près rien passé. Il ne s'est rien passé, somme toute. Ça s'est passé ailleurs, ça s'est passé à Prague. Vous faites allusion à... Enfin, un de vos interlocuteurs vous dit, mais il ne s'est rien passé en 68, sauf Prague. C'est très important. Et puis, voilà, la formule a été donnée un beau jour par Serge July, le directeur du journal Libération. Ras le mai, oui. C'est-à-dire ras le mai, ne parlons plus de ça, tournons la page de notre folle jeunesse, de notre belle jeunesse. Nous appartenons au ouzbou de mai 68. La liste est donnée une bonne fois pour toutes dans ce fameux ouvrage qui s'appelle Génération. Oui. Et puis voilà, et tournons la page. Or, vous la rouvrez depuis votre lointaine Amérique, vous rouvrez la page et vous nous dites, ben, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Du moins, vous donnez une autre lecture. Et vous dites, par exemple, mai 68 a été le plus grand mouvement de masse de l'histoire de France, la grève la plus importante de l'histoire du mouvement ouvrier français et l'unique insurrection générale qu'aient connue les pays occidentaux surdéveloppés depuis la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, on avait un tout petit peu oublié, et ces messieurs
autorisés, enfin autoproclamés représentants de mai 68, ont un peu oublié les aspects sociaux, politiques et surtout ce que vous soulignez presque à toutes les pages de votre bouquin, cette espèce de grand élan pour l'égalité, égalitariste de mai 68.
Oui, c'est ça. C'est surtout l'immensité de l'événement qui a été réduite. Surtout après 75, c'est tous les efforts visent à réduire ou bien à aplatir l'événement. Et ce que je voulais faire dans le bouquin, c'était de tracer un peu l'histoire de ces formules de banalisation ou de ces efforts de réduire un événement. C'est un peu la question de l'échelle. Vous avez, comme vous avez dit, la grève la plus générale de l'histoire de la France. Et vous commencez avec un événement de cette immensité. Et comment est-ce qu'on arrive, 20, 30 ans après, à ces petites formules, à cette doxa où on n'a que quelques mots, quelques expressions, quelques petits récits, quelques images, qui sont tous des façons d'oublier ce qui est arrivé. Alors, je me suis intéressée moins à ce qui s'est passé en mai qu'à ce jeu de mémoire et d'oubli et la façon dont l'événement devient captif des représentations successives.
Mai 68, mai 69, ce n'était qu'un combat, il fallait continuer le début. L'idée d'arrêter ne nous serait même pas venue. Par contre, se posait la question de passer d'agitateur à révolutionnaire professionnel.
Les travailleurs de Renault Flin, les militants de la Ligue communiste, vous propose de tenir un meeting avec eux. Camarades, sans aucune façon, par les élections, on ne parviendra à aboutir ce pourquoi nous militons tous, à savoir un régime socialiste où les travailleurs permettraient de meilleures conditions de vie que dans le régime actuel. Pour nous, il s'agissait de montrer l'existence d'une force politique cohérente, la voie des militants révolutionnaires qui, en mai 68, ont ébranlé le régime, ont ébranlé l'État fort.
28 mai 68 à quelques leaders. Bon, et ça, je crois que c'est très dangereux, parce qu'heureusement, mai 68, c'était pas quelques leaders. Y compris parfois des leaders qui n'ont rien fait. Mais rien du tout. Je veux dire, moi, je veux pas jouer aux vieux combattants, en plus, j'ai horreur de ça, surtout ceux qui font plus rien, mais ceux qui aujourd'hui, pour défendre leur salade, utilisent leur titre d'ancien combattant, je veux dire, moi, Bernard-Henri Lévy, Glucksmann, je n'ai aucun souvenir.
Alain Krivine.
Leur activité en mai 68, ils ont dû y participer comme tout le monde, mais rien. Enfin bon, là aussi, il y a une supercherie historique, mais enfin bon.
Alors, vous commencez par replacer mai 68 dans un contexte, évidemment, historique. C'est-à-dire que vous remontez à l'Algérie, la guerre d'Algérie. Vous évoquez assez longuement le 17 octobre 61, oui, pour replacer cette génération qui, c'est pas parce que les médias n'avaient pas vu venir les choses que les choses ne venaient pas.
Oui. Oui, oui, la grande prélude était la fin de la guerre d'Algérie. Et je crois qu'on avait intérêt un peu à oublier ce contexte pour arriver à une histoire. On connaît le cliché que c'était un coup de tonnerre dans un ciel serein. Mais je voulais montrer qu'en fait, il y avait cette histoire de la violence associée à ce que faisait l'État au moment de la fin de la guerre. C'était ça le contexte où les gens commençaient à se politiser à travers la question du colonialisme, de la décolonisation.
Mmh. Le tiers-mondisme.
Oui, le tiers-mondisme. Et on peut voir, et c'est à travers l'effort qui commençait aux années 80 de démolir le tiers-mondisme qu'on peut voir son importance a priori.
Mmh. Oui, d'accord. Ouais. Vous parlez par exemple du bouquin de Pascal Bruckner,
oui,
le sanglot de l'homme blanc.
Oui, de Jacques Julliard, il y avait aussi un grand débat qui a été lancé avec les Médecins sans frontières. Et ce désir qu'on avait de changer, de faire entrer une nouvelle régime de représentation du tiers monde et de changer ce qu'a été quand même un rapport entre les militants français, les militants anticolonialistes, un rapport d'un certain respect, d'égalité, des gens qui n'ont pas travaillé ensemble exactement, mais un peu, et l'espèce d'ouverture qui a été faite par le succès des guerres anticoloniales. Ça, c'était l'arrière-fond de 68.
Et avec une solidarité des milieux étudiants, avec les mouvements de libération nationale.
Oui.
Et, notamment avec le Vietnam, par exemple.
Oui. Il y a une très belle phrase de Sartre qui disait à l'époque que c'était la lutte vietnamienne contre les États-Unis qui a ouvert le champ du possible. Mm-hmm. Et je voulais un peu évoquer cette ouverture. Et aussi, on peut le voir au niveau de la lecture de ce que les gens lisaient à l'époque. C'était surtout la petite collection Maspero, mm-hmm. qui était les traductions qui venaient du tiers-monde et des mouvements de libération nationale, comme les gens comme Malcolm X et Mao et Fanon et Cabral. Ça, c'était la lecture de base des militants français.
Mmh. Vous parlez assez longuement de la librairie de François Maspero, La Joie de Lire, oui. Qui a été, dans les années 60, fin 50 déjà, un des foyers, l'une des sources de mai 68.
Oui, c'était à la fois une refuge contre la police, littéralement, et c'était aussi le lieu où on pouvait trouver de petites revues éphémères ou les revues qui ont été interdites par l'État. Et c'était aussi un lieu de rencontre. C'est là où on pouvait rencontrer des gens des autres groupuscules politiques ou bien les gens de l'Afrique, de l'Asie, les gens qui... Un lieu de rencontre de toutes les tendances de la gauche.
Jacques Paoli ?
Oui, Gilles Schneider ?
Oui, Jacques Paoli, vous m'entendez ?
Oui.
Eh bien, moi, je me trouve toujours au coin de la rue des Écoles et du boulevard Saint-Michel. Et toujours face à face, je vois des jeunes manifestants qui ont pris des couvercles de poubelles.
Mai 68 à la radio, mai 68 partout, et mai 68 oublié, enseveli, enfoui sous les commémorations, les clichés et le discours de ceux qui l'ont inventé un discours sur mai 68. C'est au moins ce que pense Christine Ross, à savoir que cet événement mérite mieux que la place qu'il occupe aujourd'hui. En 35 ans, dit-elle, la mémoire de mai 68 a été ensevelie sous les commémorations, réduite à la libération des mœurs, alors qu'elle fut sans doute l'un des plus grands mouvements sociaux de la Seconde Guerre mondiale en Europe, la plus importante contestation de l'ordre social existant. Voilà, cette historienne américaine qui nous regarde et qui regarde notre histoire. Ah, il y a cette tendance de la gauche au tiers-mondisme, et puis il y a l'autre tendance de la gauche quand même à la place de l'ouvrier ou du monde ouvrier.
Oui.
Et vous rappelez dans votre bouquin à plusieurs reprises cette volonté du mouvement de 68, d'un rapprochement entre les étudiants, ce qu'on a appelé les étudiants. Là aussi, c'est très réducteur, parce qu'il n'y avait pas que des étudiants à la Sorbonne, évidemment, comme on sait. Mais de cette volonté de faire tomber les barrières, toutes sortes de barrières d'ailleurs, mais notamment celle-là, celle entre le monde étudiant, déclencheur, vous allez me dire si c'est ce que vous pensez, déclencheur de ce mouvement, avec le monde ouvrier. Et contrairement à ce qui se dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rencontre, ça n'a pas été possible, les étudiants appartenaient à la classe moyenne et avaient des aspirations de classe moyenne, c'est-à-dire qu'ils ont modernisé la bourgeoisie, et puis voilà, une bonne fois pour toutes, on est passé d'une bourgeoisie autoritaire, dont De Gaulle est la figure, à une bourgeoisie plus sympathique, plus cool, plus, plus hédoniste, dont Giscard allait être l'initiateur. Et puis voilà. Mais en tout cas, la rencontre n'a pas eu lieu. Or, vous dites, il y a eu rencontre, notamment hors de Paris, dans un certain nombre de villes. La rencontre a eu lieu et la volonté de rencontre a eu lieu.
Oui, c'est ça. Et je crois que on avait l'intérêt, après 68, d'oublier ce qui était pour moi la grande particularité, la singularité française, qui était ce lien, ou bien le désir d'un lien, ou bien l'aspiration à un lien entre la contestation intellectuelle et le monde ouvrier, la lutte ouvrière. Et c'est ce lien qui existait, comme vous dites, qui faisait partie de ce qu'on faisait à Caen, par exemple, ou à Nantes, dans toutes les organisations qui a nécessité des déplacements physiques hors du quartier latin, par exemple, ou dans les organisations contre la guerre au Vietnam ou contre à la fin de la guerre d'Algérie, les gens qui se déplaçaient pour aller vers les foyers immigrés ou bien les quartiers ouvriers. Et c'est cette espèce d'organisation qui se faisait en dehors du Parti communiste. Mmh. Et c'est où on peut voir une vraie connexion ou un lien qui s'établit entre le monde ouvrier et le monde étudiant. Alors, si on oublie ça, on arrive à cette image d'une vague image romantique d'une crise de génération de fils contre père ou bien de montée de sève adolescente. C'est pour ça que je voulais surtout souligner les pratiques qui se faisait où on pourrait voir, à vrai dire, ce lien s'établit.
C'est important de ce qu'on raconte, enfin, ce que vous racontez là, c'est les effets, ce que vous appelez les effets dépolitisants. Mmh. Les effets dépolitisants. C'est-à-dire que si on s'en tient à la version officielle de mai 68, c'est décourageant pour les plus jeunes. C'est décourageant pour les plus jeunes. La dépolitisation est réussie.
Oui.
Tout se vaut, tout est vu, tout est vain.
Tout est fini.
Tout est fini.
La dernière génération.
Voilà. Ouais. Voilà. Après nous, le déluge. Il n'y a même plus de déluge, il n'y a plus rien. Là, c'est terminé.
Oui.
Vous n'avez plus aucune chance. Il n'y a pas d'alternative. Mm-hmm. Et en fait, ceux qui ont imposé, selon vous, cette vision de l'histoire de 68, ce sont les acteurs eux-mêmes.
Oui.
Hein, c'est les acteurs, enfin, autoproclamés. Et vous avez toute une série, évidemment, de noms qu'on connaît tous, puisqu'ils sont omniprésents,
oui.
qui ont construit cette version, et oui. qui ont confisqué, en fait, une histoire, selon vous.
Oui, c'est une vraie confiscation, et c'est fait, si on revient encore à cette question de l'échelle de l'événement, on prend un événement très immense, et on le réduit à soi-même. On se positionne comme acteur ou comme personnage principal dans son propre roman de formation. Alors, tout ça, c'était ma découverte spirituelle, tout ça, c'est mon histoire à moi. Sur fond de barricade, moi, je faisais cette crise existentielle. Et comme ça, on a personnalisé et individualisé une histoire, et je veux dire qu'il y a des formes très très spécifiques du genre de récit qui se produisaient surtout entre 70 et 80, entre le 10e et le 20e anniversaire de mai. On peut voir plusieurs fois le même récit de « bon, j'étais aveugle, mais maintenant je vois très très clairement, je vois avec une grande lucidité ce que je ne voyais pas à l'époque parce que j'étais dupée ou bien je me suis trompée. Et maintenant, je peux voir les réalités économiques que je ne voyais pas. » Voilà, ça c'est l'histoire.
Alors, les étudiants changent de tactique. Ils iront dans les usines manifester avec les ouvriers en grève. Sur la route de Billancourt, transistor en bandoulière, ils entendent le fameux « Cohn-Bendit connaît pas » de Georges Chégui. Et quand ils arrivent devant les portes de Renault, les délégués syndicaux s'interposent entre les étudiants et les ouvriers.
Nous sommes évidemment tous d'accord qu'il faut maintenant que les choses changent, mais il faut qu'elles changent non pas dans l'anarchie, mais dans un mouvement puissant, organisé.
Un ouvrier pour un étudiant, qu'est-ce que c'est ?
L'ouvrier, c'est un homme qui travaille beaucoup pour gagner pas grand-chose, comme c'est un homme. Il a droit à travailler moins et à gagner plus. Cette nuit, par exemple, j'ai appris qu'il y a une très grosse inertie, à mon avis, dans la classe ouvrière, dont est responsable en partie. Le parti et les syndicats actuels sont quand même quelque chose d'assez statique.
Il n'y a pas un peu de romantisme révolutionnaire lorsqu'on est étudiant et que l'on vient regarder les ouvriers de Boulogne-Billancourt en grève ?
Romantisme révolutionnaire pour certains, oui. Moi, je suis venu parce que je me sens solidaire de ces gens-là.
Alors, vous parlez assez longuement d'un parmi ceux qui n'a pas renoncé,
oui.
C'est Guy Hockenheim.
Oui.
Vous citez longuement son bouquin, Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary. Hein.
Oui.
Et c'est un bouquin d'une force et d'une drôlerie en plus, parce que c'est drôle, par l'excès même. Qu'on peut lire toujours, je veux dire, pour le plaisir, il y a une jubilation, et puis c'est d'une force et d'une violence extraordinaire. Et c'est pas seulement un livre de quelqu'un qui veut être fidèle à sa jeunesse, fut-elle folle, mais qui dénonce cette, ce qu'il faut bien appeler une trahison.
Oui, et le livre est vraiment étonnant, parce que on pourrait dire que c'est presque unique. À ce moment, il est sorti en 85, je crois, et il est sorti dans un consensus presque total. Il n'y avait et c'est pour ça peut-être la violence du livre, la violence rhétorique du livre vient peut-être de cette isolation qu'il a ressenti en voyant que la doxa était totale à ce moment. C'était pire qu'aujourd'hui. Parce que c'est vrai que la France n'avait pas de Reagan ni de Thatcher.
Enfin, on avait Mitterrand, c'est pas mal non plus. On n'est pas toujours en retard.
Oui, mais l'Allemagne et la France n'avaient pas de restructuration outre-conservatrice de l'économie pendant les années 80. Mais quand même, vous avez raison, c'était une période... très philo-américaine.
En introduction à votre bouquin, vous citez Raymond Aron et Jean-Paul Sartre. On connaît le fameux choix qu'il fallait faire, c'est préférer avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron. Mais Raymond Aron écrit en 1968 « Je ne connais pas d'épisode de l'histoire de France qui me donne au même degré le sentiment de l'irrationnel. » Donc pour lui, c'est clair, c'est net, c'est un événement irrationnel.
Oui.
Il ne s'est rien passé, un rêve, un peu rimbaldien, hein, vous parlez de Rimbaud à certains moments. Voilà, bon. Et Sartre, à la même époque, dit, et c'est vous qui le citez, « L'important, c'est que l'action ait eu lieu, alors que tout le monde la jugeait impensable. Si elle a eu lieu, cette fois-ci, elle peut se reproduire. » Ça, c'est quand même encourageant. Ça rouvre, c'est une petite phrase, une petite clé qui rouvre le champ du possible.
Oui, je voulais mettre ces deux phrases ensemble parce que dans la phrase d'Aron, on voit la panique un peu, la panique de l'élite. Et dans la phrase de Sartre, on voit, c'est parce que, c'est d'après la phrase de Sartre que j'ai fait la décision de terminer mon livre avec les grèves de 95. Mm-hmm. Il n'y a pas de raison de revenir à l'ouverture qui était mai si on ne sait pas de faire le lien avec les ouvertures du 21e siècle. On a l'intérêt... surtout dans le présent, sur le présent.
C'est-à-dire, voilà, ça c'est les vies, ce que vous appelez les vies ultérieures.
Oui.
Il n'y a pas seulement mai 68, et puis voilà, qui commence le début mai, qui finit fin mai. Il y a évidemment une suite, et ces vies ultérieures, c'est à travers ces commémorations et cette façon de nier, d'effacer peu à peu, de donner raison à Raymond Aron, et puis un certain nombre d'événements que vous soulignez, notamment 95, Seattle. Vous parlez assez longuement aussi du Larzac.
Oui.
Et là, vous remettez en perspective ce qui s'est passé sur le Larzac à partir de 71, avec des mouvements paysans précédents, qui datent des années 60, notamment le mouvement de Bernard Lambert, oui, sur les paysans. Donc vous essayez en permanence de voir une continuité, les vies ultérieures de mai 68, mais aussi les vies antérieures de mai 68.
Oui, je voulais à la fois raconter la façon dont cette histoire officielle s'est établie, ce qui est une histoire des moments où le passé politique de mai devient visible ou devient invisible. C'est ça qui m'intéressait. Quels sont les moments où ce qu'on peut dire et ce qu'on peut voir du passé récent devient plutôt ouverte ou fermée. Mmh. Et je crois, par exemple, maintenant, c'est ça qui m'a intéressé chez le mouvement de 75. C'est
95.
Oui, 95. Il n'y a pas de rapport d'analogie directe, mais c'est à travers ces nouveaux moments d'ouverture qu'on arrive à réencadrer 68 d'une nouvelle façon. Mm-hmm. Alors, il y a aussi le mouvement intermondialiste de Seattle, Genoa. J'avais l'impression que pendant les années 90, que tout commençait à changer un peu. Le mouvement de la Confédération paysanne et tout ce mouvement autour de la nourriture, ça, je crois, ça a un lien assez direct à 68. Mmh, mmh. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui disent que ce qui s'est passé en région était beaucoup plus important que ce qui s'est passé à Paris en 68. Mmh, mmh. Et qu'il y avait des continuités, et, une politique qui existait plus longtemps en région. Mmh. Et on peut voir ça à travers le Larzac et jusqu'à aujourd'hui avec tout le mouvement contre l'agriculture modifiée génétiquement.
En tous les cas, pour vous, jusque-là, mai 68, c'est un passé confisqué, c'est, oui, une histoire ensevelie, dont, encore une fois, j'y insiste, la jeune génération est privée.
Oui.
Et qui la maintient, qui l'enfonce dans une certitude d'impuissance. Et que le monde tel qu'il est ne peut pas être différent que ce qu'il est.
Oui. 68 fait peur.
Tant mieux.
Oui. Il fait peur.
Non, mais tant mieux.
À l'élite, oui.
Oui, ce serait bien si c'était seulement à l'élite qu'il fasse peur. Mais ça fait peur aussi dans la mesure où il y a tout ce que la trahison de 68 a imposé, impose aujourd'hui comme une évidence, c'est l'impuissance. Même si 95 et puis différents mouvements que vous citez laissent un peu d'espoir.
Et voici les fusées, les premières fusées qui arrivent. Attention ! Les premières fusées tout près de nous, ne vous appelez pas, c'est des manifestants, mais la rue est envahie complètement.
Il y a un barrage qui flambe, les gens aux fenêtres essaient toujours de jeter des seaux d'eau sur ces incendies.
La dernière barricade maintenant va être attaquée dans quelques temps. Les étudiants fuient en direction de la rue Claude Bernard. Maintenant on en pleure, enfin les grenades lacrymogènes fusent déjà à la hauteur de cette rue Claude Bernard. Vous voyez que la progression des forces de police est importante et qu'ils ont maintenant pratiquement le terrain conquis.
Dire un certain nombre de choses à ceux qui nous gouvernent. La synthèse de la marche, c'est une paysanne qui la disait sur le bord de la route en venant avec la marche de l'Ouest. Elle disait à ceux qui étaient auprès de nous, elle leur disait: nous allons à un mariage. Le mariage des ouvriers et des paysans, le mariage de Lippe et du Larzac. Au fond, toute cette marche nous permet aujourd'hui de comprendre qu'un événement capital se passe dans ce pays. Il y a quelque chose qui vient de disparaître de l'histoire. Jamais plus, les paysans ne seront des Versaillais. Jamais plus, ils ne s'opposeront à ceux qui veulent changer cette société. Nous l'avons prouvé et nous le prouverons tout au cours de cette journée, de cette soirée et de la journée de demain. Ce qui vient de naître, par contre, c'est que des paysans sont capables de s'organiser pour rejoindre le combat des ouvriers, des étudiants, contre le capitalisme, le patronat, contre la bourgeoisie. Nous l'avons dit à toute la population, nous continuerons à le dire. C'est le sens de toute cette marche et c'est le sens de ce que nous ferons ce soir et demain.
Vous venez d'entendre Bernard Lambert dans le Larzac en 1973. Merci à Christine Ross. Et d'ailleurs, je vous conseille de lire le livre de Christine Ross, Mai 68 et les vies et ses vies ultérieures. Pardon, excusez-moi, paru aux éditions Le Monde Diplomatique Complexe en 2005. Et puis, nous vous signalons que nous avons reçu de nombreux livres sur Mai 68 et notamment 68, une histoire collective, 1962-1981, sous la direction de Philippe Artière et Michel Zancarini-Fournel aux éditions La Découverte. Et puis le livre également de Boris Gobille, Mai 68, dans la collection Repères, des éditions La Découverte. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique Émissions, là-bas si j'y suis. À la technique, nous avions aujourd'hui Jean-Philippe Jeanne et Thomas Robin. Réalisation, Coyenne Guyen et Raphaël Moutarde. Assistante, Charlotte Perry. Répondeur, Charlotte Perry. Et le numéro justement du répondeur de là-bas si j'y suis, c'est 01 56 40 37. 37.
You say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Free your mind instead.